Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et même le temps de le dire, il est 8h16 pour être précis. Tout de suite, eh bien, nous allons retrouver notre invité politique de la matinale en ce lundi matin, Louise Daniel, déléguée départementale des Jeunes Démocrates pour le Morbihan. Elle est en charge des élections municipales de 2026. Elle est venue tout spécialement pour nous pour être en direct au micro de la matinale ce lundi matin. Je vous en remercie. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors, on va parler de beaucoup de choses ce matin, beaucoup de sujets politiques. Et j'avais envie de parler ce matin d'agriculture parce qu'on en parle un petit peu moins en ce moment. La question agricole est un peu mise de côté avec le vote du budget et l'actualité qui va très vite. Et pourtant, j'avais envie d'en parler ce matin car le monde agricole gronde toujours. Il y a toujours une colère. Aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir, c'est un peu le sens de ma question, avoir un grand plan agricole? On en parle souvent de ce grand plan agricole, de ces réformes. Est-ce que c'est facile à faire d'ailleurs?
C'est pas facile à faire. Ça fait plus d'un an que maintenant le monde agricole n'est pas content. Il y a eu un projet de réforme avec le projet de loi d'orientation agricole qui est passé l'année dernière à l'Assemblée nationale, qui est en train d'être examiné au Sénat. Au niveau européen, c'est la même chose. Le commissaire européen à l'agriculture, Christophe Hensen, a lancé l'année dernière avec Ursula von der Leyen un grand dialogue stratégique qui est en train d'être mis en place. Il y a la réforme de la PAC post-2027 qui est en train d'être faite. Donc effectivement, tant au niveau national qu'au niveau européen, il va falloir faire des réformes. On le voit aussi, il y a eu les élections dans les chambres d'agriculture où l'hégémonie de la FNSEA perd un petit peu du terrain au profit de la coordination rurale, notamment dans le sud de la France.
Ça, c'est un changement notoire quand même.
Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, que la politique aussi parfois proposée par la FNSEA ne convient plus à une certaine typologie d'agriculteurs. Et donc, ils se tournent vers des syndicats un peu plus extrême, qui parfois propose des mesures qui ne vont pas forcément dans le bon sens, notamment la sortie des traités de libre-échange. Je pense que c'est pas forcément une bonne solution pour protéger l'agriculture française. Donc, effectivement, il faut prendre en compte ces voies et agir au niveau national avec des grandes réformes.
Alors justement, ces traités de libre-échange qui sont souvent décriés, on a beaucoup entendu parler cet an dernier du Mercosur. On a vu Ursula von der Leyen se rendre en Amérique du Sud pour, acter finalement en quelque sorte ces traités. Ça a été un peu mal perçu par le monde agricole. Est-ce que ça a été mal expliqué ou est-ce qu'il faut vraiment les remettre sur la table, ces traités, les renégocier ?
Je pense qu'il y a une partie qui a été mal expliquée parce que le Mercosur, en l'état, n'est pas forcément acceptable pour une partie des agriculteurs européens et français. La France, avec Annie Genevard, va essayer de trouver une majorité, notamment avec la Pologne, l'Italie, pour essayer de ne pas faire passer l'accord. Il y a eu des résolutions qui ont été votées en ce sens à l'Assemblée nationale aussi pour ne pas ratifier l'accord au niveau national. Maintenant, il faut aussi voir que ce traité, il est bénéfique pour un certain nombre de secteurs en France. On pense notamment au domaine viticole. Les viticulteurs exportent beaucoup de vin au niveau américain, sud-américain. Le traité est plutôt profitable pour eux. En revanche, effectivement, on va importer de la viande, on va importer des céréales qui ne répondent pas aux clauses du marché intérieur. Ça veut dire que ces produits avec des normes qui ne sont pas les mêmes que chez nous, nos agriculteurs doivent respecter un certain cahier des charges. Et pourquoi on importerait des produits qui ne respectent pas ce même cahier des charges? Donc, sur cette partie, il va falloir qu'on mette en place des clauses miroirs et c'est très important pour préserver notre agriculture.
Avec, vous parliez à l'instant d'exportation, il y a une grande inquiétude aujourd'hui. Ça va nous amener à parler un peu de géopolitique et de ce qui se passe outre-Atlantique avec un Donald Trump très vibrionnant qui annonce, qui dit beaucoup de choses, qui revient parfois sur ce qu'il dit ou qui essaie de placer ses pions, mais qui constitue quand même une forme de menace pour l'agriculture européenne et française en l'occurrence. Vous parliez à l'instant des viticulteurs qui s'inquiètent, les fabricants de fromage aussi, qui s'inquiètent parce que voilà, on voit poindre les fameux droits de douane.
Et bah, dans ce cas-là, il va falloir qu'on mette des droits de douane aussi pour importer des produits américains sur notre marché. Donald Trump veut jouer avec des armes commerciales. Il va falloir qu'au niveau de l'Union européenne, on sache répondre aussi avec des armes commerciales qui sont aussi fortes. On ne peut pas se permettre d'importer des produits qui déstabilisent complètement tout notre marché intérieur. Donc si Donald Trump veut jouer avec des droits de douane, il va falloir qu'on réponde avec les mêmes droits de douane.
Avec une Europe qui a été jusqu'à présent alliée évidemment avec les États-Unis, qui depuis quelque temps est encore un peu timorée face, j'allais presque dire, au rouleau compresseur Donald Trump. Est-ce que finalement l'Europe est en train de prendre conscience, de sa faiblesse politique quelque part, on peut le dire comme ça. Est-ce que ça va amener justement cette prise de conscience à renforcer la politique européenne en matière agricole ou en matière diplomatique, hein?
Oui, je pense que l'Union européenne est consciente de ses faiblesses. Il y a plusieurs grands plans qui ont été mis en place justement par Ursula von der Leyen pour son second mandat pour renforcer toutes ses politiques avec six grands vice-présidents à la Commission européenne qui vont être en charge de grands plans tant sur la transition écologique que sur la cohésion, sur les réformes. Et donc il va falloir qu'on puisse répondre avec de grandes politiques européennes face à des géants comme la Chine ou les États-Unis.
Alors justement, ces politiques européennes, elles vont se raffermir, on a bien compris, hein. En tout cas il y a cette volonté, mais il y a quand même beaucoup d'agressivité là encore, hein, du point de vue américain, avec une forme, d'invasion technologique aussi. On va parler tout à l'heure d'intelligence artificielle, mais une forme d'ingérence politique aussi, et là c'est plus grave, on va parler des élections aussi qui vont avoir lieu, en particulier en Allemagne prochainement, avec un certain Elon Musk qui a envie de voir des partis, on pense à l'AFD, parti plutôt à l'extrême droite, prendre place en Union européenne. Est-ce que justement là aussi cette ingérence, c'est placer ses pions pour avoir une forme, allez, on va dire, de contrôle sur l'Europe, sur l'Union européenne?
Oui, je pense qu'il y a de ça. On voit effectivement en Allemagne où l'AFD commence à être très très puissante. On parle aussi de Vladimir Poutine qui fait des ingérences au niveau de ces élections fédérales en Allemagne. Mais on voit avec les élections présidentielles en Roumanie qui se sont passées en novembre, je crois. Giorgia Meloni, qui est aussi très copine avec Elon Musk et Donald Trump.
Mais donc, qui parle quand même avec Ursula von der Leyen.
Elle parle avec néanmoins Ursula von der Leyen, mais on voit une montée des populistes, un retour des populistes sur le continent européen, et c'est assez effrayant. Comment l'Union européenne peut réagir face à ça? Et il va falloir qu'on mette des mesures en place pour éviter le retour de l'extrême droite sur tout le continent européen et pour éviter de se faire marcher dessus au niveau de la souveraineté européenne.
Alors justement, la souveraineté européenne, comment la garantir face aux grands géants que sont la Chine, que sont les États-Unis? Également, vous parliez à l'instant de Vladimir Poutine, mais la Russie est là en embuscade, avec toujours la guerre en Ukraine et peut-être une négociation de paix. Selon vous, est-ce que cette négociation de paix est bonne? Elle sera, on l'aura compris, si elle est pilotée par Donald Trump, sans doute à l'avantage de la Russie. Ou est-ce que finalement l'Union européenne ou l'Europe n'a pas joué pleinement son rôle dans cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie?
Je pense que l'Union européenne a joué son rôle. Depuis le début, on essaye d'avoir un dialogue qui n'est pas rompu entre la Russie, l'Ukraine. Emmanuel Macron a toujours joué ce jeu-là, d'avoir Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine au téléphone pour essayer de négocier la paix. C'était avant Trump. Mais on a toujours aussi débloqué des budgets pour la défense des Ukrainiens, pour qu'ils puissent garantir leur intégrité territoriale. Et je pense que l'Union européenne, il y a eu un grand sommet sur la défense aussi la semaine dernière à Bruxelles, l'Union européenne s'inscrit toujours dans ce cadre-là et cette volonté-là pour essayer de ne pas laisser que la place à Donald Trump.
Voilà, qui en prend beaucoup, on l'aura compris aussi en termes économiques. Hein, on le disait tout à l'heure, avec une grande faiblesse d'un pays majeur de l'Union européenne, vous l'aurez compris, la France. On a mis beaucoup de temps avant d'adopter un budget. Cette fois-ci, c'est fait. On a vu le gouvernement Barnier tomber. François Bayrou a résisté. Alors, je ne vous demande pas son secret. Je sais que vous dialoguez beaucoup avec les instances du MoDem. Est-ce que François Bayrou, finalement, a bien mérité son qualificatif de renard, on le dit souvent comme ça. Est-ce que finalement il a su naviguer entre les écueils et pouvoir imposer sa politique et ce budget qui n'est pas parfait, il le dit lui-même, mais qui finalement a réuni?
Effectivement, il dit que ce budget n'est pas parfait, qu'il va falloir faire mieux pour le budget 2026 qu'il est en train de préparer. Maintenant, c'est un budget qui est fruit d'un consensus et ça montre bien aussi l'ADN du mouvement démocrate. On a toujours travaillé comme ça, en essayant de dépasser les clivages gauche-droite. Donc on a essayé de réunir du Parti socialiste à la droite républicaine pour construire un budget et que le gouvernement Bayrou ne tombe pas. On l'a vu, les motions de censure ne sont pas passées. Cet après-midi, il va y avoir aussi une motion de censure sur le PLFSS qui ne risque de ne pas passer, donc le gouvernement ne va pas tomber. Donc oui, ça montre que François Bayrou est assez agile et qui sait comment procéder sur les négociations. On a un budget qui est quand même assez extraordinaire, qui n'est pas forcément très bon, mais qui ramène le déficit pour cette année à 5,4% du PIB. L'objectif, c'est de le ramener à 3% en 2029. Donc, il n'y a pas forcément de hausse d'impôts non plus sur les revenus précaires et les revenus moyens. En revanche, les revenus les plus aisés ont une contribution supplémentaire pour pouvoir participer à ce budget. Donc, je pense que ce n'est pas forcément un très bon budget, mais François Bayrou a su mener sa barque.
Il y avait une grande inquiétude sur les économies, économie de l'État, économie aussi au niveau des fonctionnaires. Bon, François Bayrou a lâché un peu de lest à ce niveau-là. Il y a des inquiétudes. Aujourd'hui, on entend des collectivités, on pense souvent à la collectivité des Pays de la Loire qui ont fait des économies drastiques. Quelques autres collectivités à travers la France veulent emboîter le pas à Christelle Morançais, la présidente des Pays de la Loire. Est-ce qu'il faut économiser? Est-ce qu'il faut faire des coupes? Alors là, le monde de la culture est en émoi, mais pas seulement. Mais est-ce qu'il faut les faire de façon peut-être un peu moins brutale? Est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce qu'il faut aussi peut-être y aller par palier, si vous me permettez?
Oui, je pense. On a un budget de fonctionnement de l'État qui a été soumis à des économies pour ce budget 2025. Et les collectivités, effectivement, ont leur rôle à jouer. Maintenant, c'est aussi expliqué, il y a des coupes budgétaires sur les grosses collectivités. Les petites communes qu'on peut avoir en Bretagne, par exemple, ne sont pas forcément impactées.
Mais elles ont du mal à fonctionner, des fois, à boucler leur budget. C'est aussi le cas des conseils départementaux qui alertent.
Mais je pense que oui, tout le monde doit mettre la main à la poche et participer à l'effort collectif pour faire des dépenses qui ne sont que nécessaires. Mais on pense effectivement au milieu de la culture qui subit quelques coupes budgétaires. Et on espère que le budget 2026 sera un meilleur budget pour pouvoir aider tous ces milieux qui subissent ces coupes.
Alors avec la culture, l'information, on parlera d'intelligence artificielle, hein, je le disais tout à l'heure, mais justement il y a une inquiétude aussi sur l'information. Aujourd'hui, comment faire de l'information, comment financer l'information, comment financer des médias sans qu'ils soient mis sous tutelle de grandes fortunes ou peut-être même de pays étrangers parfois.
Oui, et il va falloir qu'on aide les médias pour que les médias puissent garder un certain ton, une certaine liberté de la presse. C'est ce qu'on a toujours défendu au mouvement démocrate et je pense que François Bayrou veut continuer à défendre cette pluralité des médias et cette liberté de la presse.
Alors la liberté de la presse et la liberté d'expression, je reviens à François Bayrou, il a une forme de liberté d'expression, alors ça lui sert pas toujours parce que la semaine passée il y a eu ce fameux mot de submersion migratoire, on a accusé François Bayrou de reprendre quelque part la terminologie d'Éric Zemmour ou du Rassemblement National. Est-ce que pour vous c'était une forme de provocation ou est-ce que ce terme est tout à fait adapté à une situation aujourd'hui? Et ça va nous amener à l'immigration, une situation qui a du mal à être contrôlée en France.
Je ne sais pas si le terme était forcément adapté. En revanche, François Bayrou connaît bien le sens des mots. Peut-être que nos citoyens mahorais, qui connaissent la grande immigration provenant des Comores, peuvent utiliser ce mot et se sentir concernés par ce mot. En revanche, chez nous, en Bretagne, je ne sais pas si on se sent concerné effectivement par cette submersion migratoire. Maintenant, je suis assez d'avis qu'il ne faut pas forcément laisser non plus toutes ces politiques et ces mots qui vont sur le terrain de la sécurité et de l'immigration être travaillés que par l'extrême droite. Les partis modérés du PS au LR, en passant par La République En Marche et le Modem, doivent se saisir de ces thématiques et apporter des solutions modérées pour répondre aux attentes des citoyens français, parce que c'est des réelles attentes concernant les politiques publiques.
On a vu d'ailleurs les plus modérés à gauche plutôt adhérer à ce discours en disant voilà, ce qui n'était pas un discours de gauche avant, on ne parlait pas d'immigration, de sécurité à gauche, où, voilà, il y avait une gêne à en parler. Est-ce qu'aujourd'hui il faut parler de façon décomplexée mais aussi de façon humaine de ces problèmes qui traversent le pays aujourd'hui, problèmes de sécurité? Les Français sont inquiets pour leur sécurité, sont inquiets aussi de la montée de certains extrémistes. Est-ce qu'aujourd'hui il faut en parler de façon décomplexée, de façon, j'allais dire, calme? Est-ce qu'il faut apaiser le débat?
Oui, ça a toujours été un peu le mot d'ordre MoDem, de parler avec tous les partis pour essayer de régler tous les problèmes. Donc effectivement, je pense qu'on a certaines problématiques à prendre avec du recul et de l'humanisme pour répondre aux attentes des Français.
Alors, ces questions d'immigration, on les entend beaucoup aujourd'hui. Il y aura encore beaucoup de débats. Puis il y a la parole de Bruno Retailleau. On l'a vu, Bruno Retailleau, très volontaire dans la lutte contre l'immigration clandestine, qui veut renvoyer des OQTF. Ça ne se passe pas toujours très bien. Est-ce que c'est une bonne méthode ou est-ce que, bien voilà, Bruno Retailleau est un peu sur, j'allais dire, les plates-bandes, si vous me permettez ce terme un peu trivial, du Rassemblement national?
Je pense que Bruno Retailleau, c'est quand même un minimum ce qu'il fait. Maintenant, François Bayrou aussi est la vigie du gouvernement et laisse une liberté de ton à ses ministres. Maintenant, si Bruno Retailleau va trop loin, je pense que François Bayrou arrivera à le rappeler à l'ordre pour ses OQTF.
Alors, ça va nous amener à la politique politicienne, si vous me permettez. Je le disais en commençant, vous êtes en charge des élections municipales de 2026. Alors, pour le Morbihan, ou plus largement la Bretagne, vous allez me le préciser. Mais voilà, elles arrivent, ces élections, après, on va dire, une séquence politique très agitée ces 6 derniers mois, même cette dernière année. Comment placer ces jalons aujourd'hui pour que le centre compte dans ces élections municipales? En gros, comment faire en sorte de gagner des municipalités, des villes ou peut-être même des communes?
Déjà, je suis en charge des élections municipales pour toute la France au niveau des jeunes
toute
démocrates,
la France, voilà,
en plus de la Bretagne.
Vous avez rectifié, merci.
Il y a un petit peu de travail, mais ça va être reprendre la stratégie du MoDem. On a un parti qui est ancré dans les territoires. On a des élus locaux qui sont présents partout, et on le voit, c'est le cas en Bretagne, dans tous les départements, on a des maires et on a des élus municipaux. Donc, il va avoir une stratégie de placer une nouvelle génération d'élus en la formant, en lui donnant les clés pour comprendre les enjeux municipaux. Mais c'est pas forcément facile parce que les politiques municipales ne sont pas forcément adaptées à la jeunesse. On a une réforme éventuellement du statut de l'élu à avoir. Je crois que les propositions portées par l'AGEF, l'Association des jeunes élus de France, et son président Florent Rossi vont plutôt dans le bon sens. Parce que c'est vrai que quand on est étudiant ou jeune actif, c'est parfois compliqué d'assumer la charge d'un mandat municipal.
Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement,
oui,
finalement.
Et parfois, on a des conseillers municipaux qui ne vivent pas dans la ville où ils sont élus, parce qu'ils ont des obligations étudiantes qui les mènent. On peut être élu à Lorient et puis faire ses études à Rennes, ce qui n'est pas forcément pratique pour assister aux conseils municipaux, pour assister aux commissions. Et donc l'AGEF propose deux propositions qui vont plutôt dans le bon sens, qui sont d'autoriser le visio lors des assemblées délibérantes, et puis de permettre aux étudiants qui sont à la fac d'avoir des dispenses d'assiduité pour certaines matières, pour pouvoir justement remplir leur fonction d'élu. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, ça va être aussi de travailler de manière transpartisane, comme on le fait et comme on l'a montré notamment lors du budget, parce que parfois l'étiquette politique ne compte pas pour les communes, notamment en Bretagne, on a des communes rurales, sur des communes de 1500 habitants, dire qu'on est du MoDem, ça compte pas.
On est élu d'une personne finalement.
C'est ça, et puis c'est comment on va travailler dans l'intérêt général pour sa municipalité et pour ses concitoyens. Donc ça va être de réunir assez largement des listes modérées et des personnes qui vont dans le même projet collectif. On a un travail aussi à faire qui est au niveau des femmes, parce que bien qu'il y ait les quotas municipaux qui soient imposés, les femmes ont toujours un petit peu de mal à se dire « je suis légitime à être élue municipale aujourd'hui, à être élue tout court ». Donc il y a un gros travail aussi là-dessus pour donner confiance aux femmes et leur dire qu'elles ont toute leur place, notamment les jeunes femmes. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de donner confiance à ces femmes. Donc ça va être un travail de longue haleine, mais pour former nos élus et nos candidats, et puis aussi montrer que c'est une grosse responsabilité responsabilité. Être conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement à Paris, c'est pas du tout la même chose qu'être conseiller municipal dans une ville bretonne très rurale. Donc il faut être conscient de ses responsabilités, de ses engagements, mais c'est une belle fonction pour l'intérêt général.
Voilà, c'est une fonction très protéiforme finalement. Vous parliez des jeunes à l'instant. Les jeunes s'investissent aujourd'hui en politique, alors pas toujours directement par la porte politicienne, si vous me permettez, mais souvent sur des causes. Alors on peut imaginer l'environnement, des causes plus humaines. Est-ce qu'il y a un regain aujourd'hui, ou en tout cas, est-ce que vous le sentez, vous, au Modem, un regain d'engagement de la jeune génération, une forme de renouvellement, quelque part, sans faire de jeunisme, mais de renouvellement, justement, là aussi, pour s'engager en politique, pour changer les choses?
Oui, complètement. On a beaucoup de nouvelles adhésions, parce que parfois, des jeunes qui étaient engagés dans des associations pour la sauvegarde de l'environnement, pour les droits des femmes, se disent que pousser la porte d'un parti politique, ça permet de vraiment faire avancer les dossiers sur lesquels ils ont pu travailler précédemment. Donc oui, il y a une recrudescence de l'engagement des jeunes.
Il y a une prise de conscience politique finalement aujourd'hui?
Complètement. Surtout quand on voit la montée des extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. On a beaucoup de jeunes qui nous disent bah, en fait, ça nous fait peur de voir ce qui s'est passé à l'université Rennes 2 la semaine dernière face au budget. Les gens ne tolèrent plus ça, qu'il y ait de la casse, des dégâts matériels, que la continuité des cours ne soit plus assurée alors que c'est du service public, donc normalement les cours devraient se passer. Ça fait peur, et donc on a beaucoup de jeunes qui se disent en fait on se tourne vers des partis modérés pour pouvoir lutter contre ces extrêmes.
Alors on voit une grande fracture aujourd'hui en France, fracture sociétale, on pourrait le dire comme ça. Vous parliez à l'instant de Rennes 2 avec ces agitations, ces fermetures de cours, ces difficultés, parfois même quelques affrontements qui nous ont été rapportés. On le voit aussi quelque part dans l'exercice, j'allais dire, au plus proche du pouvoir, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, où ces derniers temps, il faut bien dire que les débats n'ont pas été sereins.
Oui, il y a une fracture, et je pense que Emmanuel Macron le sait, François Bayrou le sait d'autant plus, et je crois qu'il a toujours voulu travailler à rapprocher, comme il dit, les territoires et Pau, notamment de Paris, donc je pense que son gouvernement et son travail, sa ligne de travail vont aller dans ce sens, d'essayer de rapprocher les décideurs politiques, des citoyens, d'être au plus près des réalités du terrain.
Il y a urgence parce qu'on voit quand même qu'une grande partie des Français s'est détachée de la politique, ne fait plus confiance au monde politique. Il ne s'agit pas de viser des personnes, mais en règle générale, bon, il y a eu le tous pourri, il y a aujourd'hui, on s'en fout. Hein. C'est un petit peu, permettez-moi le terme, il est trivial, mais c'est un petit peu ça aujourd'hui.
Complètement. Et c'est pour ça que c'est notre rôle aussi de former des élus municipaux, parce qu'on voit que l'échelle communale, c'est une échelle où les citoyens ont le plus confiance en leurs élus. Le maire est très connu, il est très apprécié de ses citoyens normalement. Donc c'est pour ça qu'on ambitionne d'avoir au niveau des jeunes démocrates des élus sur tous les territoires qui soient formés, prêts à répondre aux enjeux communaux pour justement essayer de redonner un petit peu confiance en la vie politique et dans les élus.
Alors on a eu jusqu'à présent, avant Emmanuel Macron, des partis politiques très, j'allais dire identifiés, le PS, le Parti communiste, le Front National en son temps, etc. Est-ce que le Bloc central est en train de prendre une forme d'ascendance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a besoin d'une forme d'équilibre finalement?
Je pense, malgré cela, on a quand même des divergences, mais on se respecte. On a des valeurs différentes, on a des lignes idéologiques différentes, mais on voit qu'on peut travailler ensemble, notamment sur la constitution d'un budget. Et je pense que le mot consensus doit s'imposer dans la vie publique. On arrive à le faire au niveau européen, avec des grandes coalitions sur des grands textes au Parlement européen. Et il faut qu'on arrive à faire la même chose au niveau national. Sinon,
c'est pas dans la culture, finalement.
C'est pas du tout dans la française, culture, hein. Mais il va falloir qu'on apprenne à le faire, parce que sinon, on laisse une porte ouverte aux extrêmes. Et c'est pas forcément les meilleures solutions pour répondre aux problématiques des Français.
On parlait de François Bayrou tout à l'heure, qui était qualifié de renard. Il a quand même réussi le tour de force de faire passer un budget, de ne pas subir les fourches caudines de la censure. Et il a quand même réussi aussi à diviser le nouveau Front Populaire, avec un PS aujourd'hui qui s'est éloigné en ne votant pas la censure, par exemple, de la France Insoumise, même si quelques députés PS ont voté la censure. Est-ce que c'est la fin, selon vous, d'une forme d'union de la gauche ?
Je pense que c'est la fin, effectivement, d'une forme d'union de la gauche. Maintenant, on le voit, le PS a quand même déposé une motion de censure qui sera votée le 19 ou le 20 février. Donc, il montre qu'il est en responsabilité, qu'il ne veut pas censurer le gouvernement parce que les Français en ont marre de changer de Premier ministre tous les trois mois. Il faut qu'on ait une forme de stabilité au sein du pays. Maintenant, il montre aussi que le PS n'est pas forcément d'accord avec tous les choix qui sont faits par le gouvernement de François Bayrou. Et c'est sa liberté. Maintenant, Marc Fesneau le disait hier dans une interview, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités et collectivement qu'on travaille ensemble pour faire avancer et créer des pactes de stabilité sur des grands projets, sur des grands textes pour faire rayonner la France internationalement.
Et puis François Bayrou a aussi parlé au Rassemblement National qui n'a pas censuré finalement, alors peut-être que ça ne durera pas vous me direz, mais il n'a pas censuré finalement le budget.
Parce que le Rassemblement National a 11 millions d'électeurs qui en ont si marre de voir des changements de gouvernement tous les quatre matins, si vous me permettez l'expression. Donc je pense que Marine Le Pen sait qu'elle doit être responsable. Et puis ses électeurs lui ont un petit peu tapé sur les doigts aussi quand elle a voté la censure du gouvernement de Michel Barnier. Donc je pense qu'elle se dit qu'elle n'a pas intérêt à faire la même erreur avec le gouvernement de François Bayrou.
Voilà, il faut sortir de cet esprit 4ème République finalement.
Complètement.
Je vous avais promis, il nous reste quelques minutes, d'évoquer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dont le sommet se tient à Paris avec de nombreux chefs d'État, de nombreux décideurs internationaux. La France a accusé un certain retard en la matière. L'Europe également. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron veut donner un petit coup de fouet sur la presque fin de son mandat pour que ce soit, le grand projet du moment. L'intelligence artificielle, elle est partout aujourd'hui. Votre génération l'utilise également. Est-ce qu'il faut réglementer? Est-ce qu'il faut être prudent avec l'outil? Mais est-ce que c'est aussi une formidable promesse technologique pour le futur?
Emmanuel Macron, hier soir, a annoncé 109 milliards d'investissements pour l'intelligence artificielle. Et je lisais ce week-end dans un édito Ouest France, les Américains inventent, les Chinois copient et les Européens régulent. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe, effectivement, parce que l'Union européenne va s'emparer de cette thématique aussi pour réguler, comme on a pu le faire avec le DSA et le DMA.
Donc, ils sont les textes qui régissent les réseaux et plus largement tout ce qui est numérique.
C'est ça. Et effectivement, il va falloir qu'on régule pour pas qu'il y ait
des dérives.
Et justement poser des limites. Et on va devoir apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle. Effectivement, ma génération, on le fait déjà. Mais il va falloir que les lycéens, les collégiens, les étudiants à l'école primaire, les écoliers plutôt que les étudiants d'ailleurs, s'en emparent aussi parce que ça peut être une nouvelle façon d'apprendre. Ça peut décharger les professeurs d'une certaine partie. Mais je pense qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient. Moi, quand j'étais petite, on a eu des cours sur comment utiliser l'informatique, comment utiliser Internet. On avait des certifications là-dessus. Et bah, peut-être qu'il faudrait penser à faire la même chose au niveau de l'école primaire, au niveau du collège, au niveau du lycée, par rapport à l'intelligence artificielle.
Voilà, parce que ça va poser des questions. On entend beaucoup de professeurs aujourd'hui qui se plaignent en disant « j'ai des élèves qui ne sont pas toujours très bons ». Et puis un jour, ils me fournissent un devoir avec 20 sur 20 parce que finalement, on a compris qu'ils avaient utilisé, par exemple, ChatGPT.
Non, par contre, il ne faut pas que les IA remplacent la réflexion, sinon ça n'a plus aucun but. En revanche, pour certaines tâches, ça peut nous aider à problématiser, à pousser un petit peu plus loin. Donc, il faut savoir l'utiliser à bon escient.
On pense au domaine médical. On en parle beaucoup aujourd'hui avec cette recherche autour du cancer, des tumeurs qui ne sont pas forcément détectées par l'œil humain, mais que la machine, que l'IA peut détecter et elle peut en soi sauver des vies, aider les médecins à diagnostiquer.
Oui, et il faut que dans tous les domaines, comme la recherche médicale, mais bien d'autres domaines aussi, l'agriculture, on en parlait tout à l'heure.
Alors j'allais y venir.
Pour la transition écologique des agriculteurs, l'IA peut aider pour savoir précisément, et c'est déjà fait avec les GPS, la technologie des GPS, mais ça peut aider pour savoir combien de fertilisants on a épandu sur un champ, etc. Donc dans tous les domaines, l'intelligence artificielle va servir, mais comme partout, il va falloir réguler et l'utiliser à bon escient.
Est-ce que dans le domaine politique, ça va changer les choses? Voilà, c'est la petite question subsidiaire.
J'ose espérer quand même qu'on puisse encore arriver à écrire des amendements et à déposer des textes de loi sans avoir recours à l'intelligence artificielle.
Ça diminuera peut-être l'amplitude des séances à l'Assemblée nationale. L'enjeu politique, je voulais terminer là-dessus, l'enjeu politique, il est important pour le MoDem aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un changement là aussi, j'allais presque dire de mentalité, on a besoin de stabilité, les électeurs ont besoin de cette stabilité. Est-ce que ça peut profiter au MoDem, et ce sera ma dernière question, pour les élections, que ce soit d'ailleurs les élections, j'allais dire législatives, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas les élections municipales, et un peu plus tard pour la présidentielle.
Je crois qu'au MoDem, on a toujours été un parti proche des électeurs, ancré dans les territoires. Tout le monde connaît les élus MoDem qui sont là, donc oui, effectivement, ça pourra nous profiter.
Et c'est là-dessus que l'on va s'arrêter. Louise Daniel, déléguée départementale, Les Jeunes Démocrates pour le Morbihan, en charge des élections municipales de 2026 pour l'ensemble du territoire français. Il fallait le préciser. Merci infiniment d'avoir
Merci
été avec
vous.
Nous ce matin. Première radio, ça s'est très bien passé. Très belle journée.
À vous aussi, merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.